Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à faire entendre votre voix. Chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Aube, c'est aussi une revue et un blog avec plus de 400 entrées sur tous les sujets. Toutes nos émissions sont disponibles en balado et chaque capsule peut être téléchargée via laplumedefeu.com. Aube, spéciale collectivité. Si le 20e siècle a été marqué par l'État-nation, on dit que le 21e siècle sera le siècle des villes et des communautés. Déjà plus de 50% des humains vivent dans un contexte urbain. Ce sera 66% en 2050. Depuis toujours, la ville joue un rôle dans l'histoire de l'humanité. Qu'en est-il des communautés? Au sommaire, le mouvement de transition. L'historique des écovillages. La communauté Lost Valley et Zeg, une communauté en Allemagne. Aube te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives, de prendre action simplement par une prise de conscience. Le mot-clé? Communauté. Dans ma chaumière onirique, nichée sur une branche d'un vieil orme du plateau, je repense à mes anciens dadas. Les communautés, les écovillages. Oui, oui, j'ai déjà eu beaucoup d'intérêt pour ce mode de vie. Dans ma tendre jeunesse, je croyais avoir trouvé une solution pour régler pas mal de défis que traversaient nos sociétés post-consommation. Mais pas le type baba cool, ni le genre vacances hors du système. C'était vraiment pas mon trip, la commune hippie. Je dirais plutôt communauté intégrée à son époque, habitée par des gens de bonne volonté. Ouvert sur le monde, dont les membres entretiennent entre eux des relations saines. Utopie, vous vous dites sûrement. Est-ce que ça existe en 2077? En 2007, le monde avait tout espéré. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont tenté. Même si aujourd'hui je me sens moins appelé par ce mode de vie, de l'avoir expérimenté à l'époque, je comprends mieux la nécessité de repenser nos façons d'occuper le territoire. Alors que vous habitiez en ville, à la campagne, dans un éco-quartier ou un village en transition, que vous vous impliquiez dans un organisme communautaire, un projet d'incroyables comestibles, voire une bibliothèque d'outils. La convivialité et le bon voisinage est une notion fondamentale pour les acteurs du quotidien qui habitent notre pièce de théâtre de tous les jours. Pour ma part, j'ai fait le choix d'habiter dans un quartier à l'échelle humaine, avec des humains élus pour les intérêts de ses habitants. Alors, que vous soyez anti-ville ou que vous l'habitiez par choix, qu'on le veuille ou non, celles-ci sont là pour rester. Alors, qu'importe que nous soyons de futurs éco-villageois, des néo-ruraux ou des postes urbains. Qu'importe vos horizons, vos intérêts, vos compétences, la richesse de nos rapports avec notre voisinage est loin de se limiter à une pécuniaire contrepartie. J'entends l'écho lointain de cette fanfare de gazouillement par ma fenêtre. C'est une bonne idée de changer les klaxons des autos par des chants d'oiseaux. La majorité d'entre nous à l'époque avions appris à l'endurer en silence, chaque jour. Alors, bien au chaud dans mon petit nid, je me demande... comment faire pour apporter à la campagne la culture, les arts, la créativité, l'amitié, la famille, la communauté, les connaissances, les festivités? Et comment faire pour apporter à la ville un peu plus de verdure, des forêts, des cultures, des étoiles? J'ai décidé de ne plus vivre la solitude parmi la foule, divisée pour mieux régner. Je gazouille dans vos haut-parleurs chaque semaine depuis maintenant 50 ans pour vous apporter une lueur d'espoir. Ah, si j'avais su à l'époque, si j'avais su.
Les villes ont certainement servi à la floraison de la société humaine comme on la connaît aujourd'hui en rassemblant autant d'individus dans un territoire rapproché. Les grandes cités de l'Antiquité, que ce soit Athènes, Rome ou Constantinople, qui semblent encore pour certains un symbole romantique de civilisation, ont permis de grands progrès dans les domaines de l'éducation, de la science ainsi que pour les systèmes d'aqueducs routiers, etc. Vers le XVIIIe siècle, cependant, l'arrivée de populations urbaines dépassant les 20 000 individus apporta des difficultés d'approvisionnement, causant une expansion constante de l'exploitation de la nature, mais c'est surtout avec l'ère industrielle de la fin du XIXe siècle, début XXe, que les villes ont pris une ampleur gargantuesque et terrifiante. Les villes, comme des êtres gourmands et égoïstes, se sont mises à grandir démesurément en recrachant leurs excréments dans l'eau, l'air et sous terre. La vision de James Redfield dans La prophétie des Andes propose cependant une vision positive du futur. Mais est-ce vraiment possible? Alors voyons ensemble comment nous pouvons améliorer notre sort de citadin. En parlant d'espace urbain, eh bien aujourd'hui, en moyenne, 50% de la population mondiale vit en ville, environ 3 milliards d'individus. Cette surpopulation en elle-même est la cause de plusieurs maladies urbaines. Aujourd'hui, l'étalement urbain étend son périmètre dévastateur avec ses banlieues à perte de vue. Et pour prendre le virage salutaire, il serait impératif de renverser la vapeur et d'encourager un retour rural. Côté ville, l'initiative des écoquartiers dans plusieurs villes d'Europe, notamment en Allemagne ou aux Pays-Bas, repense l'urbanisme en fonction de l'individu et de ses besoins. C'est un exemple à suivre de près, finalement, puisque les espaces verts sont en plein essor, on repense les transports en commun et les places publiques pour faire de l'individu le cœur de la ville. Il serait judicieux également de créer de vastes espaces réservés à l'agriculture urbaine. Et oui, cultiver en ville nos fruits et nos légumes, ça diminuerait significativement le transport et du même coup la production de gaz à effet de serre. À Cuba, dans la ville de La Havane, on a déjà commencé avec succès l'agriculture urbaine. On y cultive 128 000 tonnes d'aliments en pleine ville. Les tomates de La Havane coûtent 80% moins cher que les tomates produites à la campagne. Cultiver ces plantes médicinales aussi est également à remettre au goût du jour. Ici au Québec, l'agriculture urbaine des fermes LUFA ainsi que les productions locales d'agriculteurs bio permettent d'éviter les intermédiaires et de profiter de légumes de qualité, voire bio pour certains producteurs comme la ferme du Coq à l'Âne par exemple. Les toits végétaux purifient l'air des villes en les débarrassant du CO2 et normalisent les températures, isolant en hiver et rafraîchissant en été, et ils filtrent l'eau de pluie qu'on peut utiliser pour la lessive ou pour nos salles de bain. Alliés à l'agriculture urbaine, ils rendent possible de cueillir notre salade sur nos toits. Au Japon, c'est déjà la règle. Chaque gros édifice doit avoir une couverture verte avec au moins un arbre. En Allemagne, en une seule année, on aurait végétalisé plus de 8 millions de mètres carrés de toits urbains, et ce, grâce à une politique d'avantages fiscaux. Au Québec, eh bien, nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Sur le plan humain, beaucoup de travail doit aussi être fait. Pour améliorer nos qualités de vie dans une écocité, plusieurs défis se présentent. Il faut prendre des mesures collectives afin de retrouver un meilleur équilibre. Chaque individu doit se conscientiser et se responsabiliser face à sa consommation, puis appliquer strictement les règles de base de l'écologie urbaine, c'est-à-dire les 3 R dont on avait déjà précédemment parlé, à savoir la réutilisation, récupération et la revalorisation. Pour notre bien-être, nous devons également encourager au maximum la consommation de produits biologiques, équitables et locaux, qui réduisent de beaucoup notre empreinte écologique, en plus de nous faire économiser de l'argent. Comme le stress est le facteur principal des maladies cardiovasculaires et de bien d'autres encore, un village écologique sera une ville en plus lent et en plus doux, aux mécaniques plus légères. Tout bon et concitoyen devra pratiquer la simplicité volontaire et redéfinir constamment ses réels besoins pour contribuer à une vie respectueuse et en harmonie avec son environnement. Une société en santé reconnaît la valeur des personnes âgées et des jeunes et sait les valoriser en les intégrant dans la vie socio-économique. Bref, elle a la capacité de constituer la communauté humaine. Une grosse maison où vous passerez votre vie à payer. Est-ce que ça vous branche? En plus, faite de matériaux polluants, peu sains et coûteux? Eh bien, les alternatives sont possibles. On a déjà parlé des tiny houses, elles en sont l'exemple le plus manifeste actuellement. Une volonté de s'affranchir des règles de l'hypothèque traditionnelle est en marche depuis 2008 et ça ne semble pas prêt de s'arrêter. Pour ceux qui souhaitent construire une maison et penser cette étape comme un véritable projet, plusieurs sites sont là, à portée de main, pour connaître à la fois les réglementations, les fournisseurs et les architectes qui ont une autre pratique de la construction. Le Conseil du bâtiment durable, par exemple, regroupe des acteurs de changement de la construction et de l'aménagement, animés par la même volonté de changement dans les pratiques. Et si vous souhaitez aller au cœur du sujet, la construction, le site Écohabitation recense tous les outils indispensables pour construire une maison ou même un écoquartier selon les principes de l'écologie durable. À la fois certification éco-entrepreneur pour les constructeurs qui souhaitent connaître les réglementations, des exemples de maisons passives, vous pouvez même aller visiter des maisons qui ont repensé totalement leur construction. Il y a également un annuaire d'architectes et d'entrepreneurs. Bref, Écohabitation va vite devenir ton meilleur ami. La transition entre nos villes cancers de planète et les écocités où il fait bon vivre est encore possible. Nous en avons tous la responsabilité. Le changement doit d'abord se faire en nous. Il faut commencer dès maintenant à éduquer nos enfants à transmettre le savoir. La formule est la même pour tout changement. Elle demande des efforts, et oui, mais le jeu en vaut la chandelle. Parlez-en autour de vous, dans votre famille, à vos amis, écrivez au gouvernement municipal, provincial et fédéral. Outre la décroissance soutenable, une autre super arme est disponible à notre portée, le grand boycott, tel que présenté dans le film « La Belle Verte », c'est-à-dire boycotter toutes les grandes corporations et multinationales jusqu'à ce qu'elles meurent de faim. Acheter, c'est voter, ne pas acheter, eh bien, c'est créer.
C'était un texte tiré de Aube, le recueil de solutions. Adaptation et narration d'Aurélie Suberchico.
Le modèle de transition a été créé en 2005 à Kinsale, en Irlande, dans le cadre du cours en permaculture qui donnait Rob Hopkins. Celui-ci a lancé le mouvement des Transition Towns en 2006 à Totnes, en Angleterre, là où il venait de s'installer avec sa famille. On utilise dorénavant l'appellation « initiative de transition » puisqu'il est rapidement apparu que des villages, comtés, îles et quartiers de grandes villes utilisaient également le modèle qu'il a créé. On compte aujourd'hui plus de 225 initiatives reconnues dans 15 pays, dont 42 aux États-Unis et 6 au Canada, et des centaines d'autres sont en préparation. Le modèle de transition est une réponse citoyenne aux menaces que font peser sur nos communautés la disparition rapide du pétrole abondant et bon marché, le fameux pic pétrolier, ainsi que le chaos climatique et la vulnérabilité du système économique qui découle de ces conditions. Tout est fondé sur une vision alternative et positive de leur avenir, élaborée par les citoyens, vision qui guide l'élaboration d'un plan d'action de descente énergétique, PADE. On reconnaît que c'est une démarche de longue haleine, car on ne peut espérer changer en quelques années les fondements d'une société. Le mot « transition » exprime ce travail dans la durée. Le changement est commencé, mais loin d'être achevé. L'important est de prévoir et de ne pas attendre que le réservoir soit vide. Il s'agit de préparer, dès aujourd'hui, un futur moins gourmand en énergie en élaborant des systèmes de production, de consommation et de vie en commun conciliables avec les réalités écologiques, sociales et économiques qui s'annoncent. Pour Hopkins, il appartient à chaque communauté, à chaque entité locale, de construire sa résilience, c'est-à-dire son aptitude à encaisser des chocs tout en préservant l'essentiel de son fonctionnement. Une communauté augmente sa résilience en faisant le meilleur usage possible de ses ressources, en déménageant une grande partie des activités dont elle dépend, en changeant ses aptitudes en matière de consommation et de déplacement. Il n'est pas question d'un retour en arrière, mais plutôt de devenir plus solidaire et plus autonome en termes de nourriture, d'énergie, d'emploi, de transport et d'économie. Une particularité importante des initiatives de transition est qu'elles émanent de la population et non des autorités locales, ce qui n'empêche pas de souhaiter que des ponts soient établis avec elles. Il ne s'agit pas de substituer à l'action des collectivités locales, des entreprises, des associations existantes ou encore de l'État. En pratique, le but d'une initiative de transition est de susciter, de coordonner et de soutenir les différents projets qui émanent de la communauté en créant des groupes de travail thématiques – alimentation, déchets, énergie, enseignement, déplacement, logement… Le mouvement de transition donne une grande importance à la relation, à la discussion, à l'enrichissement mutuel. Il permet à chaque citoyen de s'engager dans le processus, à son niveau, selon ses souhaits et ses possibilités, peu importe les différences en termes de profit, d'âge et de compétences. Une grande place est donnée aux initiatives des jeunes et à l'éducation, car ils construisent le monde de demain. Les anciens sont aussi mis à l'avant. Leur expérience passée d'un monde moins dépendant du pétrole est précieuse et sert de base à la requalification de la population. Cette dynamique allie volontairement la force du groupe avec l'implication personnelle. Elle a le mérite de libérer le génie collectif et l'enthousiasme de la communauté. Elle permet surtout de construire des liens sociaux plus forts et plus durables. Les initiatives de transition rejoignent par beaucoup d'aspects les orientations et les motivations des mouvements de simplicité volontaire et de décroissance conviviale. Le but n'est pas de survivre, mais de se recentrer sur l'essentiel. Vivre autrement, mieux. Rob Hopkins écrit dans The Transition Handbook que si la situation ne vous fait pas peur, c'est que vous n'avez pas encore vraiment compris. En décrivant avec précision la situation critique dans laquelle nous nous trouvons, la peur est inévitable car elle est un mécanisme de survie destiné à nous faire réagir à une menace. Le rôle de la peur est de nous alerter, mais pas de nous indiquer quoi faire. Le modèle de transition est bâti là-dessus. Faire d'abord preuve de courage en regardant la peur en face avant de passer à l'action d'une façon positive, créative, saine et joyeuse. Une initiative de transition doit inclure une partie importante de la population, c'est-à-dire rejoindre même des gens individualistes, confortables et indifférents qui ne se sont jamais impliqués dans une entreprise communautaire. Ces personnes vivent dans un faux sentiment de sécurité. C'est seulement après avoir reconnu le problème qu'elles se mettront en quête de solutions. Nous aurons accompli l'essentiel si nous arrivons à montrer à un maximum de personnes qu'il peut faire bon vivre plus simplement en coopérant. Déjà, les liens tissés aux premières étapes du processus de transition nous aideront à passer au travers avec moins de souffrance.
Un texte de Michel Durand tiré de Aube, le recueil de solutions. Adaptation et narration de Martin Junior Pelletier.
Pedrito de Pestre, Manuel Galván, Polo Tamayo, Jesús Tondique Aguaje Ramos, Vivian Morrison y yo, Amadito Valdés, siempre con su hijo.
Mon quartier de banlieue, y avait de l'action en Dorieux. Quand on était morveux, on jouait à cachette. Ces terrains des voisins, je restais caché pas mal longtemps dans un avec la petite Chartrande. Il faisait pas beau, y'avait sous-sol à Guilbeau. On allait jouer au Coleco, les petits gars capotaient ces G.I. Joe. Et sur la sœur à la vallée, parce qu'elle en avait des gros. Et quand le soleil sortait derrière les nuages, des nouveaux amis, eu les premières blondes, mais c'était pas trop CDD. CDD qui était le premier à avoir son permis dans son Volkswagen. On écoutait du Led Zeppelin avec toute notre vie en avant, mais par un esti de soir vers la fin du printemps, après un party d'été, c'est tué, il s'est endormi au volant. Toujours me rappeler de cette soirée-là. Les Canadiens venaient de gagner la Coupe Stanley. Après sa mort, on est tous tombés bien bas. J'ai lâché le cégep en janvier.
L'étalement urbain ou le phénomène de la banlieue, si néfaste pour l'environnement en Corse et surtout à cause de l'utilisation de l'automobile, on n'en sort pas, et de la déforestation, j'ajouterais, ne sont certainement pas dépourvus d'explications. Le couple classique, citadin, de classe moyenne, travaillant en ville, ne choisit pas consciemment d'y rester lorsqu'il passe à l'étape de fonder une famille. Ces gens veulent bien sûr aussi un petit espace à eux, ne serait-ce qu'un carré de pelouse, pour que puissent y jouer, gambader leurs petits mousses. Ils ont également besoin de sentir leurs enfants en sécurité, ce que le taux de criminalité réel, mais souvent préconçu, ne permet pas toujours de remplir. Finalement, ils désirent une intimité que les blocs appartements mal insonorisés, avec le manque d'arbres et de verdure, ne peuvent offrir. Toutefois, qu'en serait-il s'ils avaient l'opportunité d'habiter une communauté possédant pour ses habitants un grand terrain boisé, un jardin ou un parc servant de lieu de détente et de zone tampon avec le voisinage? Qu'en serait-il s'ils pouvaient compter sur des voisins qu'ils connaissent, côtoient et veillent les uns sur les autres? Qu'en serait-il s'ils habitaient dans des logements mieux conçus, plus sains, plus robustes et surtout mieux insonorisés? À nous de rêver la ville autrement.
Texte tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration et adaptation, Danny Schneider.
Après avoir été enlevé par un étrange individu nommé Garibaldi, dont l'acronyme était Figaro, celui-ci me fit subir quelques examens de conscience. Soi-disant pour élever ma pensée hors de mes pérégrinations philosophiques arides. À mesure que nous discutions, je découvris, loin du sombre tortionnaire qu'il semblait être, un homme plein de génie, mais cependant horriblement asocial. Il me donna par la suite la liberté de errer dans sa demeure, et je partais alors à la découverte des secrets de mon hôte. Suite à l'entretien avec ce bon bonze, je me dirigeais vers les cuisines. Le fumet splendide de quelques alchimies culinaires humectait mes lèvres. J'entrai et fus surpris de ne voir pas l'ombre d'une personne. Il n'y avait que le bruit de la vapeur en action sous les couvercles d'inox des marmites environnantes. Mais une odeur étrange emplit mes narines. Derrière celle des carottes et du bœuf, un timide accent de terre et d'herbes fraîches volait dans les airs. Je suivis ce fil jusqu'à une porte habilement dissimulée derrière un rideau épais. La porte grinçait lorsque j'ouvris, dévoilant une série de marches s'enfonçant dans les sous-sols de la maison. Je descendis durant quelques minutes, jusqu'à rencontrer un spectacle sidérant. Mes pupilles n'avaient jamais vu s'inscrire devant elles un tel décor fantastique, et mon cerveau n'aurait jamais pu imaginer que l'homme se force à tant d'ingéniosité pour mettre en place cette folie. Un village d'une centaine d'habitants se déployait devant moi, sous la voûte transparente d'une grotte gigantesque. Au-delà, vers le ciel, le plafond d'une serre laissait entrevoir ça et là le passage lent de lianes et de végétaux exposés au soleil, le promontoire sur lequel j'étais juché menait par la suite à une volée de marches qui s'étalait dans un champ de ce qui devait être du blé. Quelques hectares dansaient sous le vent mystérieux de la caverne et des bruits humains résonnaient discrètement. Quelques points vaquaient à leur occupation sans se soucier de l'absurdité de leur situation. Je fis pris de vertige et manquai de tomber. Une main ferme me rattrapa, alors in extremis. Garibaldi se tenait derrière moi, fièrement appuyé sur une de ses cannes en bois dur, dans un ensemble violet.
Alors, cher ami, la vue vous convient-elle ?
Je dois dire que le spectacle, à défaut d'être mesurable, me donne des frissons.
Et ce n'est là qu'un aperçu. Descendons, voulez-vous ?
L'expression « éco-village » a vu le jour lors du sommet de la Terre de Rio de Janeiro au Brésil en 1992. Suite au rapport Brundtland, la Commission mondiale sur l'environnement, produit en 1987, faisant le constat alarmant du réchauffement de la planète, de la raréfaction de l'eau, d'espèces vivantes et de l'accroissement de la pauvreté dans le monde, les dirigeants de 178 pays se sont réunis à Rio pour discuter de l'avenir de la planète. La déclaration de Rio, adoptée à cette occasion, promulguait que les êtres humains ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature et que les nations ont le droit souverain d'exploiter leurs ressources tout en veillant à ce que ces activités ne portent pas atteinte à l'environnement d'autres États. S'en est suivi le fastidieux Agenda 21 fixant des objectifs ambitieux à atteindre. Parmi ceux-ci, Gaia Trust et le Global Eco Village Network ont proposé La Terre est notre habitat afin de supporter financièrement les projets d'éco-habitat comme exemple vivant de communautés viables pouvant résoudre la multitude de problèmes soulevés par le rapport Blundell. Ils pourraient servir de champs expérimentaux reproductibles autant en zone urbaine que rurale, à travers le monde en différents types d'habitats, de climat, de culture où une volonté et des habiletés de développer un mode de vie durable a déjà été démontrée. Sans doute à cause de leur longue expérience dans les communautés de cohabitat, les Danois étaient prêts en 1993 à créer la première association de communautés viables. Par la suite, Gaia Trust cibla ainsi 20 projets d'éco-habitat à travers le monde qui pourraient devenir des projets d'éco-village puisqu'ils avaient déjà développé plusieurs facettes du concept global par leur culture et leur mode de vie différent de ceux des sociétés dites modernes. On retrouve parmi ceux-ci Finnorn en Écosse, Auroville en Inde, The Farm aux États-Unis et Sarvodaya au Sri Lanka. Dès 1994, la stratégie du Global Eco Village Network devient plus claire et un réseau est mis sur pied ayant pour objectif l'échange d'idées et de technologies, le développement culturel et éducatif dans le but de développer et démontrer des modes de vie respectueux de l'environnement et durables pour les générations futures. Viennent s'ajouter Lebensgarten et Steyerberg d'Allemagne, Crystal Water d'Australie, Ecoville de Russie, Gyorufu d'Hongrie, The Ladakh Project de l'Inde, The Manitou Institute des États-Unis et l'Association danoise des communautés viables. En 1995, le site Internet du réseau était mis sur pied et Gaia Trust et Finnorn Foundation organisaient une conférence internationale intitulée Éco-village et les communautés viables pour le 21e siècle, regroupant 400 personnes de 40 pays différents. On y décida de créer trois réseaux régionaux, le réseau des éco-villages des Amériques, le réseau des éco-villages européens et le réseau des éco-villages d'Asie et d'Océanie. À la Conférence internationale des Nations Unies, Habitat 2, de 1996 à Istanbul, le Global Ecovillage Network présentait les écovillages comme des modèles positifs vivants de principes de développement durable alliant l'usage des technologies avancées et une spiritualité satisfaisante tout en vivant harmonieusement avec la nature. Les 20 écovillages désignés par Gaia Trust y ont présenté leurs réalisations et le Global Ecovillage Network et Gaia Trust demandèrent 100 millions de dollars pour supporter la mise en place du programme « La Terre est notre habitat ». Depuis ce temps, les trois réseaux régionaux ont le vent dans les voiles. À ce jour, on peut dénombrer 243 membres du réseau mondial. Certains membres sont des écovillages, alors que d'autres sont des associations d'écovillages. Un texte de Carole Ricard tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration et adaptation de Philippe Laramé. Toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Plus tôt en début d'émission, vous avez entendu le mouvement de transition, l'historique des écovillages, sans oublier la musique de Sophie Lanthrope dans mon quartier. Si vous avez manqué la première partie, vous pouvez télécharger nos émissions en balado via laplumedefeu.com. Le premier festival des mini-maisons eut lieu en juillet 2015 dans la municipalité de Lantier, sur les terres du projet Les Hameaux de la Source, développé par Habitat Multigénération. Un développement résidentiel inusité pouvant être développé sur des terrains plus petits, avec des maisons plus mini.
On a visité 30 municipalités avant qu'il y en ait une qui dise oui. Le nouveau zonage, on est précurseurs, mais il y a d'autres municipalités qui vont se faire approcher parce qu'il y a plein de gens intéressés à la quantité de gens qu'on a eu aujourd'hui. Il a fallu qu'ils changent les lois municipales pour le zonage de mini-maisons. C'est le premier au Québec. Le minimum de grandeur, c'est autour de 320 pieds carrés, maximum 1500 pieds carrés. T'as une famille avec trois enfants, là-dessus, t'as deux ados, ça prend un peu plus grand pour vivre. On favorise le solaire passif, fait que l'orientation est toute vers le sud, ça coûte presque rien à chauffer. Fait que c'est quand même écologique, mais abordable. Mais le terrain, si on regarde, ça répartit d'une Les maisons sont tellement collées que les mains se touchent par les fenêtres tellement qu'elles sont collées. Ici, là, tu as de l'espace. Parce que les gens, quand ils voient le plan, ils disent « Ah, c'est rapproché », mais quand ils vont sur le terrain puis ils voient physiquement la grandeur du terrain, « Ah, c'est pas si pire ». Non, je pense pas, parce que les gens qui ont un mot de 6 maisons, ils se réunissent en avant pour savoir s'ils ont des intérêts communs, s'ils ont de la chimie entre eux autres. Si ça marche pas, ils vont prendre un autre terrain ailleurs. Là. Ouais, un comité. Il y a une personne responsable par hameau pour le comité total de toute la place. Mais entre eux autres, il y a déjà une fraternité qui s'est installée entre les 6. Un l'être humain, c'est sûr. Je pense que les gens qui viennent s'installer ici, déjà, ils ont une ouverture. Parce que les gens qui viennent ici, souvent, ils veulent un côté communautaire. Donc, ils vont avoir de l'entente puis ils vont se sentir impliqués dans le projet. Une maison sur roue, c'est plus petit. Fait qu'on va comme un modèle, un peu comme en Floride, des packs de roulottes, parce que ça va être des packs de mini-maisons sur roue. Ça va être, l'aménagement va être différent, puis tout va être pensé différent, c'est parce que le besoin est différent. Ils ne pourront pas s'installer ici, on prévoit faire un autre terrain de l'autre côté, parce que c'est trop petit, parce que le minimum, c'est 320 pieds carrés. Un terrain, c'est 22 500. Ça comprend rien. Il y a juste la route pour se rendre, puis on amène l'électricité au coin, puis l'électricité va par les fils sous terre à chaque maison pour avoir des poteaux partout. L'électricité, la route, puis voir des frais communs d'entretien de la route, déneigement de la route et les vidanges.
Pour en savoir plus, visitez habitatmultigénération.com.
Lost Valley est une communauté intentionnelle et un centre éducatif sans but lucratif situé aux États-Unis. Elle est habitée par 22 adultes et 7 enfants qui y vivent en permanence. Les membres vivent dans plusieurs styles d'habitation, que ce soit des maisons conventionnelles, des cabines, des yourtes et des grands bâtiments dans lesquels il y a plusieurs appartements. Ils se donnent comme mandat de servir la terre et d'y développer une agriculture durable. Reconnaissant l'aspect spirituel, ceux-ci offrent des ateliers, des conférences et des cours. Sur leur terre de 87 acres, on trouve une forêt de chênes, une chute et des espaces pour se baigner, une belle forêt diversifiée, une prairie naturelle, des jardins de légumes, d'herbes, des arbres fruitiers et de noix et des animaux. Ils sont situés proches d'une ville étudiante, connue pour sa belle énergie, ses activistes environnementaux et sa politique progressiste. Les membres de Lost Valley croient en une communication saine entre les membres et se donnent le temps de célébrer et de vivre leur spiritualité ensemble. Le centre éducatif donne de l'emploi à la majorité de la communauté, mais avec le nombre croissant d'habitants, le besoin de travailler à l'extérieur se fait sentir. Ils sont très ouverts aux nouveaux projets de développement économique sur la Terre ou de nouveaux programmes pour le centre éducationnel. Pour être membre de Lost Valley, il faut premièrement être en accord avec sa mission et ses principes de vie. Il y a bien sûr des frais pour être membre, que vous soyez un nouveau membre ou un membre à plus long terme. Il y a les dépenses de nourriture et les locations de maison. Chaque membre travaille de 8 à 10 heures par semaine dans la communauté, dans différentes tâches, que ce soit pour faire la cuisine, les corvées diverses, le nettoyage et les différents comités de la communauté. Faire partie des cercles est important, que ce soit les cercles quotidiens, les cercles de bien-être hebdomadaires afin de s'accorder émotionnellement, ou les cercles bimensuels de communauté. Poursuivre des buts d'épanouissement personnel est essentiel, tout comme prendre la responsabilité pour nos propres émotions ou nos idées, nos croyances et nos actions, et surtout comprendre comment elles influent sur les autres. Il faut aussi maintenir des relations claires, honnêtes, ouvertes avec les membres et travailler activement pour résoudre les conflits et les incompréhensions, ce qui inclut le processus de médiation si le besoin se fait sentir. Et face aux conflits, il faut être ouvert à regarder notre rôle, nos patterns, nos réactions. Chaque membre accepte et suit les décisions prises par la communauté ou la quitte si les idées ne peuvent s'accorder. Il faut accueillir cordialement les visiteurs et étudiants sans faire de discrimination sur les facteurs d'âge, de sexe, de race, de religion, de classe sociale, de statut économique ou d'orientation sexuelle. Les enfants sont aussi traités avec amour et respect, tout comme la Terre et tous les êtres vivants qui l'habitent. Dans leur appel aux nouveaux membres, on voit que la communauté recherche des personnes matures émotionnellement, en cheminement intérieur. Les membres potentiels passent une première semaine d'essai et les personnes prennent part à la vie de la communauté et reçoivent des ateliers, des formations avec un ancien membre pour répondre à leurs questions. Ensuite, si les personnes veulent continuer, elles peuvent devenir membres exploratrices ou elles prennent, pour une année, l'engagement de faire partie de la communauté. Par la suite, si elles s'engagent à respecter la charte et si elles sont acceptées, elles peuvent devenir membres à long terme. En conclusion, Lost Valley est une communauté mature, structurée et fonctionnelle. Pour en faire partie, il faut déjà avoir certains revenus et ça demande beaucoup d'engagement. Qu'importe l'âge et les revenus de chacun, faire partie de la solution, s'impliquer, à Lost Valley ou ailleurs, ça demande une disponibilité physique et matérielle. C'est un choix qu'on assume, pour le meilleur et pour le meilleur.
Pour en savoir plus, lostvalley.org. Un texte de Sarah-Maria Leblanc tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration et adaptation d'Elisabeth Daigle.
Montréal. J'enfourche mon vélo. Il fait doux. Le soleil est radieux et étonnamment chaud pour cette période de l'année. Je profite de ces derniers instants de pure adrénaline que me procure ma bécane. Le métro attendra. La piste cyclable est tapissée de feuilles mortes. C'est étrange qu'elle soit si belle, si colorée alors que la vie s'en est retirée. Comme quand j'étais enfant, j'y roule et je m'enivre du parfum qu'elle exhale pendant qu'elle craque sous mes roues. Ça me rappelle les balades en forêt, les croustades aux pommes de ma mère, les citrouilles, les feux de feuilles dans la cour. J'adore l'automne. Ce matin, le parc La Fontaine est magnifique. Un rayon de soleil caresse mon visage. Encore un petit bonheur qui passe. Et voilà que mon cœur se gonfle de joie et que tous mes soucis en sont réduits à néant. Rien d'autre n'existe. Je ressens un profond sentiment de bien-être, de paix, de compréhension aussi. Le bonheur est ici, maintenant. Inutile de le chercher ailleurs. Si vous habitez Montréal et que vous étiez debout à 7 heures ce matin, vous avez certainement été témoin de la brume qui enveloppait la ville. Je suis sortie sur mon balcon, émerveillée, m'imprégnant de son silence et de son aura. Avez-vous pris le temps de vous arrêter, de vous gaver de sa beauté? Si le bonheur que l'on cherche tant se trouve dans le moment présent, devons-nous apprendre à nous arrêter pour l'accueillir et le savourer? Nous croyons souvent à tort que nous manquons de temps, mais toutes les activités qui noircissent les pages de notre agenda sont-elles vraiment nécessaires? en retirons-nous seulement une vague satisfaction, une impression de devoir accompli? Ou nous procure-t-elle réellement un sentiment de bonheur? J'ai connu la sensation étouffante du temps qui file à vive allure, embourbée dans des responsabilités inutilement inventées, prise dans le tourbillon des invitations acceptées d'emblée par peur de dire non, des événements qu'on ne doit supposément pas manquer et qui servent finalement à fabriquer des souvenirs. On dit oui à tout ce qui est offert sans réfléchir à nos véritables désirs. S'occuper pour oublier, pour faire taire l'angoisse de la solitude, effrayé de se retrouver seul avec soi-même. Aujourd'hui, je cherche avidement chaque instant d'oisiveté. J'adore être assise en silence, à ne rien faire, sinon laisser un rayon de soleil me caresser le bout du nez. J'aspire à travailler moins, à avoir plus de temps consacré à ce qui est vraiment important à mes yeux, à ce qui me fait vibrer, à ces petits bonheurs qui font partie de ma réalité, et à ces étincelles de joie qui surgissent uniquement dans le ici et maintenant, pour peu que nous puissions nous arrêter pour les savourer pleinement.
C'était « Petit bonheur d'automne » ou « L'art de savourer l'instant », écrit par Julie Bouchard, adaptation et narration de Marie-Claude Tardy.
À une heure de train de la ville de Berlin, dans une région plutôt aride de l'Allemagne, se trouve la communauté ZEG, dont le nom signifie « Centre d'expérimentation sur la culture ». Cette communauté a été fondée officiellement en 1991, après avoir vécu plusieurs années dans les Black Mountains près de la Suisse. Établie sur un terrain de 15 hectares à 80 km au sud-ouest de Berlin, ce dernier terrain fut utilisé au tournant du siècle comme ferme, a ensuite appartenu au régime d'Hitler pour entraîner ses militaires et a finalement été utilisé comme base pour les services secrets. Beaucoup d'histoire est contenue dans chaque parcelle de ces quelques hectares. Les principes de base derrière ZEG viennent des textes controversés de Dieter Düm et Sabine Lichtenfels, qui ont maintenant créé une communauté sœur au Portugal se nommant Tamera. Aujourd'hui à ZEG vivent environ 80 adultes et 20 enfants, en plus d'un flux constant de visiteurs qui y viennent pour des ateliers et conférences à thèmes divers, comme la communication, les relations humaines et les arts. Ces ateliers sont le principal moyen de subsistance pour la communauté. Le but premier de ZEG est d'établir un centre de conférences et de recherche internationale sur le développement de modèles sociaux et écologiques durables. Ils tentent d'incarner ce but dans leurs actions de tous les jours. Ainsi, la majorité de ce qui emplit leurs assiettes vient de leur jardin ou de leur région. Les nouvelles constructions se font de manière écologique et les décisions sont prises en plénière à l'unanimité après avoir été réfléchies par un groupe composé de 13 personnes, le Conseil des 13. Une piscine remplie d'algues et de poissons ainsi que plusieurs arbres fruitiers garnissent le paysage. On y trouve des lieux de méditation, dont un cercle immense au milieu du terrain où se tient la méditation matinale, un sauna, deux sweat lodges, un petit café, une boutique d'artisanat, des ateliers d'art, etc. Chaque membre de la communauté doit soit payer un loyer, soit travailler dans la communauté en échange d'y être logé et nourri. La majorité des membres travaillent dans la communauté. ZEG est reconnue pour l'importance qui est mise sur les relations interpersonnelles. L'accent est mis sur la redécouverte de l'amour pour soi et de l'amour pour les autres, un amour libre, c'est-à-dire libéré de la peur. Chaque personne dans la communauté devient alors un miroir de nos propres angoisses et mine d'or d'apprentissage. Des cercles de femmes et d'hommes ont lieu chaque mois pour partager. Ils se réunissent dans des lieux réservés exclusivement aux femmes ou aux hommes pour discuter des angoisses et des joies reliées à leur rôle dans la société. Des chants, de la danse et un cercle de parole du côté des femmes, alors que du côté des hommes, de nombreuses discussions animent la soirée. Assise aux côtés de femmes de 20 à 65 ans, d'origines diverses, à partager espoir et crainte, une personne lance alors une question, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire être femme ? La parole libre est un exutoire et une source de lien entre tous les participants de la discussion. Il existe aussi un autre outil de communication particulier à ZEG, le forum, où à tour de rôle, un individu prend la parole au centre d'un cercle formé des membres de la communauté. Tous l'entourent pour symboliser la protection de celui qui, au centre, trouve le courage de mettre son cœur à nu. Le partage est libre et une personne s'occupe de coordonner le forum et d'encourager l'individu à exprimer ses angoisses, ses joies, ses peurs ou certaines tensions vécues avec d'autres, tantôt par la danse ou par d'autres moyens qu'elle croit propices à déstabiliser la peur et intensifier l'expression. Le forum est, selon plusieurs personnes, la clé de la survie de leur communauté. Il permet de mettre au jour les problèmes et les succès de chacun. Dans leur exploration des relations interpersonnelles, en plus des outils de communication, plusieurs membres de la communauté choisissent de vivre des périodes ou une vie entière de relations ouvertes. C'est l'aspect de la communauté qui a semé le plus de controverses dans les environs et qui pousse de nombreuses personnes à venir y faire un tour. Cet aspect des relations humaines permet de poser des questions profondes nourries par nos insécurités, possession, jalousie, crainte de l'abandon. Ces préoccupations cachées sous le tapis et qui ne réapparaissent qu'au moment le plus inopportun ou inattendu sont à ZEG et pour certains, des questions de base qu'il convient de regarder en face. Loin de nous l'idée d'encourager à suivre la voie du polyamour ou celui de la fidélité ad vitam aeternam, mais plutôt celle d'interroger notre difficulté parfois à indiquer ce que nous voulons vraiment, ce qui nous correspond, indépendamment des contraintes sociales ou des attentes extérieures. Au-delà d'une pratique, ZEG nous propose un chemin alternatif d'interrogation, sans tabou ou non dit. Bref, nous oblige à être honnête et à oser l'introspection, tout en nous inscrivant dans un dialogue qui fait sens pour le reste de la communauté.
C'était un texte d'Emmanuel Denis Filion, tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration et adaptation d'Aurélie Superchico. Nous sommes dans un endroit qui ne figure sur aucune carte. Cette ville se nomme Murderville. Elle a été fermée il y a quelques années lorsque la compagnie minière n'a plus réussi à extraire suffisamment de matières premières pour en assumer sa rentabilité. Depuis, seuls les quelques nostalgiques de son passé glorieux habitent encore l'endroit hanté par les souvenirs de cette florissante communauté dont l'erreur fut de centraliser l'ensemble de son économie. Saison estivale, un touriste du nom de Gilbert est porté disparu depuis plusieurs jours. Les derniers témoins disent l'avoir croisé alors qu'il revenait de faire l'escalade de la plus haute montagne des environs. L'agent Claude enquête du côté de Murderville. L'atmosphère est lourde dans l'ancienne municipalité minière des années 50. Claude conduit son véhicule tout au long de l'ancienne rue principale en prenant soin d'esquiver les trous et les fissures dans la chaussée. Le seul endroit encore ouvert par ces temps de misère reste l'Hôtel du Nickel, dont le propriétaire possède désormais une bonne partie de la ville. Celui-ci, ainsi que les quelques habitués, lèvent leur nez de leur bière flatte à l'arrivée de l'agent Claude en costume trois pièces de la ville. Les habitués, plutôt vareuses de chasse et look blasé, le suivent d'un regard interrogateur.
Bonjour, connaissez-vous cet homme?
Il est passé, il y a une semaine environ. Vous le voulez quoi?
Porté disparu.
Faudrait demander à Germaine, au magasin général. Je crois qu'il venait chercher des vivres et de l'équipement de camping. Il s'est arrêté souper ici. C'est Linda qui l'a servi, je m'en souviens.
Et Linda, je peux la trouver où?
Son chiffre commence à 5h, pour le rush du souper.
Un roche du souper, c'est un peu mort par ici, non?
Ah, vous seriez surpris. Ce nombre d'habitants restait fidèles à Murderville. Depuis la fermeture de la mine de Nickel, il y a eu un renouveau dû au prix dérisoire des maisons. De plus, on est samedi, et c'est bingo à la salle paroissiale.
C'est étrange, mes informations me disaient que la ville avait été fermée et que les derniers habitants avaient été dédommagés par le gouvernement.
Ah, vous savez, ces gens sont pour la plupart nés ici. On ne peut pas déraciner si facilement un homme et sa famille.
Chez Germaine, le magasin général, la couche de poussière recouvrant les articles en tout genre est éloquente de l'activité de la région.
Vous dites ne pas reconnaître cet homme.
Vous savez, à mon âge et au nombre de clients que je vois par semaine...
Oui, il me semble que lorsqu'un urbain vient faire l'acquisition de plusieurs jours de provisions, il repart avec une note plutôt élevée. Du matériel de camping, ça ne passe pas inaperçu.
Grandman, voyons, tu te souviens pas? C'est le monsieur avec le chandail vert, tu sais, Université Miskatonic, qui nous a demandé de candater la carte accrochée dehors.
Quelle carte?
Celle de Murderville et de ses environs, juste sur le côté, ici, là. Je pense qu'il cherchait une montagne à escalader, à moins qu'il n'en revenait. Je me rappelle plus. Mais il m'a aussi demandé si c'était possible d'accéder aux vestiges de l'ancienne mine.
Pourrais-tu m'expliquer la carte?
Bon, ici, c'est la rue principale avec le magasin général et l'hôtel du Nickel. Là, c'est les anciennes écoles de la ville. L'école secondaire a été transformée en musée du skidoo par le propriétaire de l'hôtel. Ici, en périphérie, il y a la mine de Nickel ainsi que les bâtiments désaffectés de la compagnie.
Et d'après toi, c'est possible d'accéder à la mine?
La compagnie dit l'avoir fait sauter avant de quitter, mais peu de gens croient les dires de cette compagnie. Plusieurs la soupçonnent même d'avoir enfoui des déchets radioactifs.
Un fait ou une légende urbaine?
C'est dur à dire. Murderville est tellement pollué qu'une source de plus ou de moins, ça fait plus grande différence rendu là.
Vous saviez qu'il y avait, pendant l'âge d'or de Murderville, le plus gros taux de berylliose au pays?
Ne faites pas attention à ma grand-mère, là. Ici, c'est l'aréna et la piscine. Ici, la piste de ski. Là, c'est le quartier industriel, l'ancien poste de police et le poste de pompier juste ici, là.
Et combien de résidents habitaient Murderville à l'époque?
Je dirais entre 5 et 10 000. C'est dur à dire, car il y avait beaucoup de va-et-vient des travailleurs de l'extérieur.
Une jolie ville fantôme, avant-goût de ce qui attend les municipalités possédant une économie unique orientée vers ses ressources naturelles. Merci beaucoup pour ces précieuses informations. Si tu entends parler de quoi que ce soit, voici ma carte.
Tout au long de la journée, l'agent Claude visita la ville moins inhabitée qu'elle en avait l'air. De rencontre en rencontre, il en apprend un peu plus sur l'histoire de la ville et ses environs. Murderville a décliné lors de l'annonce de la Murderville Nickel Company de déplacer ses activités vers un pays en voie de développement. Les motifs annoncés par celle-ci concordent néanmoins avec une série de disparitions inquiétantes de travailleurs saisonniers. La presse ne fit pas grand cas de ces disparitions, mais la façon dont la compagnie procéda pour fermer la mine mit la puce à l'oreille à plusieurs travailleurs qui ont décidé de mener leur petite enquête. Commence alors une longue et lente agonie qui mena à la fermeture au bout d'une dizaine d'années de lutte contre le gouvernement et le dédommagement des derniers habitants. La lumière sur les disparitions n'a jamais été faite, mais l'agent Claude, grâce à ses contacts et à ses privilèges que lui confère son rang d'agent spécial, a eu accès à des dossiers plutôt particuliers. Un des plus hauts placés de la compagnie fut retrouvé assassiné dans son appartement de la Technopole. Les meurtriers ont tenté de camoufler l'assassinat en suicide, mais sans succès. L'enquête n'a pourtant jamais abouti, faute de preuves. L'agent Claude est maintenant attablé à l'hôtel du Nickel, juste avant le rush du souper, à discuter avec Linda, la serveuse visiblement mal à l'aise.
Vous avez été une des dernières personnes à avoir discuté avec Gilbert. Est-ce qu'un détail étrange retient votre attention?
Non, en fait, vous savez, c'est assez rare qu'un étrange vous offre un billet de 50$ pour avoir de l'information sur l'ancienne mine de Nickel. À part vous, bien sûr.
Paraissait-il nerveux ou mal à l'aise?
Un peu, mais c'est peut-être à cause du patron puis des clients qui n'ont pas cessé de nous regarder tout au long.
Est-ce que le patron avait des parts dans Murderville Nickel's Company?
À ma connaissance, c'est le seul à avoir prospéré suite à la fermeture de la mine. Il possède maintenant plus de la moitié de la municipalité, vous savez. Venez me retrouver dans ma chambre après 20h.
Durant la soirée, l'agent Claude investigua du côté de l'ancien siège social de The Murderville Nickel, ayant maintenant son bureau chef au Costa Rica et ses avoirs aux Bahamas. Mais un bureau satellite à Montréal leur permet encore d'avoir un pied à terre en sol canadien. Celui-ci a appris par les médias locaux toute une série d'événements étranges entourant des disparitions, des coups d'éclat, des délocalisations d'Autochtones et pire. Plus l'agent Claude avançait dans la compréhension de son dossier, et plus celui-ci commençait à comprendre que les intérêts de cette multinationale n'étaient peut-être pas aussi nets qu'elle laissait transparaître. 20h sonnèrent, et celui-ci allait cogner à la chambre de Linda à l'hôtel du Nickel, sans réponse. Dans la salle enfumée, l'agent Claude demanda à d'autres serveuses si celle-ci aurait vu Linda. Restait une piste à suivre, l'ancienne mine du Nickel. Arrivé sur les lieux, une gigantesque clôture électrifiée cerne les lieux que l'agent Claude réussit à neutraliser grâce à ses gadgets d'agent spécial. La mine sembla abandonnée au premier regard, mais passé des barricades, celui-ci comprit assez rapidement qu'une génératrice fonctionnait encore à plein régime, ainsi que tout un système de pompes hydrauliques qui approvisionne en eau à partir du lac non loin. Une fois dans les galeries souterraines, l'agent Claude découvrit une gigantesque culture de tomates hydroponiques géantes échelonnées sur des kilomètres et des kilomètres de profondeur.
Tiens, tiens, agent Claude, vous me semblez trop curieux.
C'est donc cela, une culture illégale de tomates de serre hydroponique. Mais pourquoi avoir tué Gilbert?
Je n'ai pas tué Gilbert, agent Claude. Celui-ci est tombé dans la mine et malheureusement, il ne se rappelle plus de rien. Nous l'avons déposé à l'hôpital de la Technopole.
Et si je comprends bien, vous n'avez rien à vous reprocher. Le déclin de Murderville, le rachat des maisons, la spéculation...
Si j'en ai profité, eh bien oui. Comme tout bon entrepreneur. De là y voir une conspiration, eh bien non. Je n'ai rien à me reprocher. Les astres se sont simplement alignés pour moi et mon entreprise. J'ai eu l'idée de transformer cette mine désaffectée en gigantesque serre hydroponique afin de donner du travail à mes concitoyens. Je crois que personne ne peut me reprocher d'être attaché à cette contrée qui m'a vu naître et grandir.
Étrange, mais pourtant véridique, l'agent Claude, une fois les alibis vérifiés auprès des autorités compétentes et le pauvre Gilbert retrouvé errant, sans souvenir au sein de la Technopole, put enfin classer le dossier et se rendre à l'évidence. Peu importe le moyen utilisé par une petite communauté pour survivre, il restera toujours des irréductibles pour tout tenter afin de voir refleurir le lustre de leur municipalité. C'est ce qui conclut cet épisode de Aube. Toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com. Si vous vous sentez inspiré par Aube, nous vous invitons à participer à notre émission. Chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Si vous avez deux minutes pour nous offrir vos commentaires, il nous ferait grand plaisir de vous lire sur laplumedefeu.com, sur Facebook ou via Twitter. Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Philippe Laramé, de Marie-Claude Journeau, Aurélie Superchico, Jean-Baptiste Gardarin, Martin-Junior Pelletier, Annie Schneider, Elisabeth Daigle et Marie-Claude Tardy. À la réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé.